de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie ne veut pas être forcée d'exporter. Sandiaga appelle à ne pas augmenter le tarif du parc national de Komodo. Second Home Visa permet aux investisseurs mondiaux d'investir plus facilement en Indonésie. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative, Sandiaga, assure la sécurité et la sûreté des touristes. L'Indonésie accueille la conférence islamique de l'ASEAN. Guangzhou a ajouté une clinique de fièvre pour faire face au pic de COVID-19. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie ne voulait pas être forcée d'exporter des ressources naturelles pouvant être transformées dans le pays. Tout en prononçant une remarque virtuelle de la réunion ouverte pour commémorer le 73e anniversaire de l'Université Gadjah Mada, UGM, à Grasaba Pramana, UGM, Sleman, lundi 19 décembre, le président a déclaré qu'au sommet ASEAN-Union européenne, l'Indonésie avait souligné que la coopération entre les pays ne consistait pas seulement à avancer ensemble, mais aussi à également progresser. Ainsi, selon lui, aucune partie n'a le droit d'imposer sa volonté et d'utiliser des normes pour s'imposer aux autres parties. Le ministre du Tourisme et de la Communication Créative, lundi 20 décembre à Jakarta, a garanti qu'il n'y aurait pas d'augmentation de droit d'entrée pour le parc national de Komodo, TNK. Cela a été transmis par Sandiaga Uno concernant le plan d'augmentation du billet d'entrée pour le parc national de Komodo de 3,75 millions de rupiah, qui devait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2023. Sandiaga Uno a expliqué qu'actuellement, les taux appliqués sont toujours les anciens taux conformément au règlement gouvernemental UPP numéro 12 de 2014. Selon lui, le changement de taux doit être basé sur le nouveau PP qui est actuellement encore en cours de révision. Il a déclaré que le gouvernement indonésien priorisait à la durabilité à long terme dans la politique touristique, en particulier à Labuan Bajo.
Selama PP ini masih berlaku, tarifnya masih akan tetap berlaku yang sama. Dan tentunya ini akan dikaji kembali.
Bien entendu, tant que ce PP est encore valable, le tarif s'appliquera toujours de la même manière et bien sûr, cela sera revu en relation avec la conservation, car nous voulons garantir la capacité de stage et le maintien de la durabilité à long terme est une priorité absolue de la politique touristique de Labuan Bajo. Et cela impliquera de nos côtés le ministère de l'Environnement et des Forêts, le ministère de l'Intérieur et également des parties liées, car bien sûr, la mise en œuvre de la conservation des ressources biologiques et de leurs écosystèmes dans le parc national de Komodo est devenue l'attention du monde. Sandiaga Uno a en outre expliqué que le gouvernement continuerait d'essayer d'augmenter les visites touristiques à Labuan Bajo. L'an 2 consiste à compléter un espace ouvert au public en organisant des événements d'envergure internationale et nationale et en faisant de Labuan Bajo comme destination pour réunions, incentives, conventions et expositions ou MICE. Actuellement, 20 festivals culturels thématiques et tourisme sportif sont préparés pour 2023. Le directeur général par intérim de l'immigration au ministère de la Loi et des Droits de l'Homme, Widodo Eka Cahyana, par le biais d'une déclaration écrite reçue lundi 19 décembre à Jakarta, a déclaré que la politique de second home visa vise à faciliter l'entrée des touristes étrangers, des talents mondiaux, les hommes d'affaires et les investisseurs mondiaux à investir en Indonésie. Selon lui, cette politique sera également soutenue par les services sectoriels et régionaux, tels que les services de permis d'investissement, les permis pour le tourisme, les services aux entreprises immobilières, les services de permis de la main-d'œuvre, aux services de permis de construire des usines et des compagnies. Le lieu des services devrait offrir des promotions attrayantes pour attirer les touristes, les hommes d'affaires, les talents mondiaux et les investisseurs mondiaux à entrer et vivre en Indonésie 5 à 10 ans. Le ministre du Tourisme et de la Communication Sandiaga Uno, lundi 19 décembre à Jakarta, a déclaré que le ministère qu'il dirige assurera la sécurité et la sécurité des touristes étrangers et nationaux pendant les vacances de Noël et de Nouvel An 2023 au Nataru. Selon lui, les installations touristiques, des destinations touristiques, des centres d'économie créative doivent garantir la sécurité, je veux dire la sûreté et la sécurité afin que les touristes, dont le nombre devrait dépasser 40 millions, puissent mener des activités touristiques en toute sécurité, confortablement et agréablement. Pendant ce temps, en ce qui concerne la tenue d'événements, selon Sandiaga, le gouvernement autorise les concerts de musique à encourager l'économie, à ouvrir des opportunités commerciales et des emplois et à assurer le contrôle des foules, les systèmes d'alerte précoce et les plans d'évacuation. L'Indonésie accueille la deuxième conférence islamique de l'ASEAN qui se tiendra à Denpasar, Bali, du 21 au 23 décembre 2022. Le directeur général de l'orientation de la communauté islamique du ministère de la Religion, Kamarudin Amin, a déclaré lundi 19 décembre à Jakarta qu'environ 140 participants de l'ASEAN, y compris du Royaume d'Arabie Saoudite, assisteraient à la conférence. En outre, selon lui, il y avait également un certain nombre de conférenciers composés d'ulémas, d'universitaires et de dirigeants d'organisations communautaires islamiques d'Indonésie, de Malaisie, de Brunei Darussalam et d'Arabie Saoudite. Cette conférence discutera de la mise en œuvre de la modération religieuse dans les sociétés musulmanes ainsi que des efforts pour prévenir l'extrémisme et l'intolérance. Le gouvernement provincial de Guangdong, République populaire de Chine, RPC, a presque doublé le nombre de cliniques de Guangzhou pour les résidents souffrant de vivre après les autorités sanitaires locales ont prévu un pic de cas de transmission de COVID-19. Cité Pasinua, le directeur adjoint de la Commission de la Santé de la ville de Guangzhou, Zhang Yi, lors d'une conférence de presse lundi 19 décembre à Guangzhou, a déclaré que plusieurs hôpitaux de Guangzhou avaient augmenté le nombre de cliniques de vivre de 114 à 199. Selon lui, cela a augmenté la capacité quotidienne de la ville à recevoir des patients vivre à 111 000 par rapport au niveau précédent de 40 000 patients vivre. Il a ajouté qu'actuellement, environ 50 000 patients se rendent dans des cliniques de vivre à Guangzhou en une journée. Pendant ce temps, Guangzhou est sur la bonne voie pour augmenter le nombre de lits en unité de soins intensifs ou UZI de 455 à 1385 à compter de mardi 20 décembre. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, l'amiral TNI Yudo Margono est nommé commandant en chef de TNI. Le président Joko Widodo au Palais d'État Jakarta, lundi après-midi, 19 décembre, a nommé le chef d'état-major de la marine indonésienne Yudo Margono pour devenir le commandant des forces armées nationales indonésiennes, remplaçant le général Andika Perkasa qui prend sa retraite ce décembre. Cependant, l'amiral TNI Yudo Margono ne servira son mandat de commandant TNI que pendant moins d'un an avant de prendre sa retraite en novembre 2023. Même s'il était bref, Yudo Margono a promis de remplir ses fonctions de commandant de TNI de la manière la plus optimale possible. Lors de la cérémonie d'investiture, le président Joko Widodo a ordonné au commandant de TNI de maintenir la souveraineté et l'unité de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI. Le commandant Yudo Margono a également été demandé par le président à maintenir une grande confiance du public dans le TNI. En ce qui concerne l'année politique avant les élections de 2024, le président Joko Widodo a également chargé le commandant Yudo Margono de maintenir la neutralité du TNI. Le président Joko Widodo a également donné des instructions spéciales au commandant Yudo Margono concernant le groupe criminel armé ou KKB en Papouasie. Le président lui a demandé d'être ferme avec les membres du KKB. Le président Joko Widodo a d'abord déclaré que l'approche humaniste et la réduction des soldats TNI en Papouasie étaient effectivement bonnes. Cependant, il a également rappelé au commandant du TNI d'être ferme avec le KKB compte tenu des actions brutales qu'ils ont souvent menées. En effet, de nombreuses tâches difficiles attendent le nouveau commandant TNI. Maintenir la souveraineté de l'État unitaire de la République d'Indonésie sur terre, sur mer et dans les airs n'est pas une tâche facile dans un pays dont le territoire est composé de nombreuses îles. Mais pour l'instant, gérer le KKB en Papouasie est peut-être la tâche la plus difficile pour le commandant de TNI. L'ingérence incessante du KKB associée à l'œil du monde qui est prêt à accuser l'Indonésie d'avoir commis des violations des droits de l'homme en la traitant est un héritage de devoirs qui doivent être accomplis par le nouveau commandant du TNI. Pendant ce temps, le commandant Yudo Margono n'avait que moins d'un an pour le résoudre. Espérons que le commandant du TNI, Yudo Margono, puisse immédiatement trouver la bonne stratégie pour faire face à l'existence du KKB en Papouasie. Ainsi, même si Yudo Margono a dû prendre sa retraite avant la fin de son travail, cette stratégie pourrait continuer à être utilisée pour le prochain commandant du TNI comme base pour résoudre correctement le problème de la Papouasie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 décembre 1945, Raden Otto Iskandar Dinata décède. L'un de ses héros nationaux est décédé à Tangerang, Banten, et à l'âge de 48 ans. Otto Iskandar Dinata est né le 31 mars 1897 à Bojongsoang, la résidence de Bandung. Au cours de sa vie, Otto est devenu membre du BPUPKI, ou Agence d'enquête pour la préparation de l'indépendance, et du PPKI, ou Comité pour la préparation de l'indépendance indonésienne, qui ont été formés par le gouvernement d'occupation japonais en tant qu'institution pour aider à préparer l'indépendance indonésienne. Il a été nommé héros national le 6 novembre 1973. Un monument à la lutte du nord de Bandung à Lembang, Bandung, nommé Monument Pasir Pahlawan, a été érigé pour immortaliser sa lutte. Le nom Otto Iskandar Dinata est également immortalisé en tant que nom de rue dans plusieurs villes d'Indonésie. Passons maintenant à l'événement du 20 décembre 1999. Le Portugal a officiellement renvoyé Macau en République populaire de Chine. Macau est officiellement renvoyé en Chine depuis le Portugal le 20 décembre 1999. avec le transfert de souveraineté sur le territoire à la Chine, Macao est devenue la région administrative spéciale de Macao. Pendant une période de 50 ans à compter du retour, Macao conservera son économie capitaliste et une certaine autonomie politique. Mais la politique étrangère et de défense restera sous l'administration chinoise. Ce système s'appelle la politique en pays de système. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 décembre. On commémorait pour la première fois la Journée nationale de la solidarité sociale. On commémorait le 20 décembre en tant que Journée nationale de la solidarité sociale ou HKSN. HKSN a commencé par des efforts pour défendre l'indépendance de 1945 à 1948. À ce moment-là, à Yogyakarta, la capitale d'Indonésie, en juillet 1949, le ministère des Affaires sociales s'est rendu compte qu'il devait y avoir une reprise sociale pour le peuple indonésien. Cette date fait référence au 20 décembre 1949, lorsque le ministère des Affaires sociales a créé le symbole du travail social et le code d'éthique sociawan pour commémorer l'événement historique d'unir la société pour surmonter les problèmes de défense de la souveraineté de l'État. L'incident s'est produit le 20 décembre 1948. Le lendemain de l'invasion et de l'occupation de la capitale de l'État Yogyakarta par l'armée coloniale néerlandaise. C'est Zurita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Awalnya biasa, tapi biasa melihatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap. Terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée « Ministère de l'Agriculture invite les investisseurs coréens à griller l'horticulture de l'ouest de Sulawesi ». Vous êtes avec moi, Audrey. Ce jeudi tard, le ministère indonésien de l'Agriculture invite les investisseurs coréens à gérer des plantations horticoles dans l'ouest de Sulawesi. Cela a été transmis par le gouverneur par intérim de l'ouest de Sulawesi, Akmal Malik, à Mamoudzou vendredi 16 décembre. Il a déclaré que le directeur général de l'horticulture au ministère de l'Agriculture, Priyasto Setianto, inviterait les investisseurs coréens à investir dans le développement et la gestion des produits des plantations horticoles dans l'ouest du Sulawesi. Comme cité sur la page Antara, 17 décembre, Akmal Malik a déclaré que le ministère de l'Agriculture a remercié le gouvernement provincial de l'ouest de Sulawesi pour ses efforts visant à continuer à renforcer la coordination et la collaboration avec le gouvernement central dans le développement de l'agriculture et des secteurs de plantation. Le ministère de l'Agriculture dispose d'un réseau avec la Corée pour investir et développer des investissements liés aux produits de base adaptés au développement dans l'ouest du Sulawesi. Akmal Malik a expliqué que Sulawesi occidental a un riche potentiel qui peut être développé dans le secteur des plantations, mais qui n'a pas été entièrement géré correctement. Le gouvernement provincial de Sulawesi occidental établit une collaboration avec le ministère de l'Agriculture afin qu'en plus d'aider à augmenter les investissements. Ils fournissent également un soutien budgétaire et formule un développement dans les secteurs de l'agriculture et des plantations qui sont plus ciblés pour améliorer l'économie de Sulawesi occidental. Il a dit que l'Ouest de Sulawesi deviendrait une zone d'approvisionnement alimentaire pour la construction de la capitale nationale, IKN, dans l'est de Kalimantan. Il espère donc toujours une aide centrale pour développer le secteur agricole et le développement, en plus de renforcer la coopération économique avec le gouvernement dans le Kalimantan oriental. Akmal a également déclaré que le gouvernement provincial de Sulawesi de l'Ouest fournirait également un soutien au gouvernement central pour la Convention sur l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ou POV, à laquelle participeraient 76 pays, dont les États-Unis, le Japon et les pays membres de l'Union européenne, organisation de l'UPOV pour assurer la protection internationale des semences végétales et protéger les droits des producteurs de nouvelles variétés végétales et un système international de garantie des semences végétales qui doit être soutenu car il affectera le développement des plantations du Sulawesi occidental et augmentera les investissements. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Thank you.
putar kembali, jelas ku kembali menuju hatimu, karena hanya bersamamu aku merasakan benar dicintai. Hingga detik ini siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita, jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba saja, ku masih selalu merindu. Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter le Palais Ismahayana à Kalimantan Occidental. Si vous visitez Pontianak dans la province de Kalimantan Occidental, il y a le palais Ismahayana que vous pouvez visiter. Le palais situé sur Jalan Pangeran Sancanata est le plus ancien à Kalimantan Occidental. Le palais a été fondé au 14e siècle et toujours fleuri jusqu'à présent. Le bâtiment est composé de bois de fer, un type de bois rare que l'on ne trouve que dans certaines forêts de Kalimantan. Saviez-vous qu'il s'avère que ce plus ancien royaume de Kalimantan Occidental est encore dans la même lignée avec le royaume de Majapahit sur l'île de Java? On dit que leur fils aîné de l'une des reines Majapahit, à savoir Brawijaya Angkawijaya, a déménagé à Ngabang, ou maintenant la ville de Landak. Le fils, qui s'appelle Raden Sumantri, a ensuite épousé une fille locale et ils ont eu un fils qui s'appelle Raden Ismahayana. Ensuite, Raden Ismahayana a fondé le royaume Ismahayana. Il s'est également converti à l'islam et a changé son nom. Le palais Ismahayana est un témoin de la gestion du royaume et fait désormais office de musée, un lieu d'exposition des collections matérielles des sultans Ismahayana. Au palais Ismahayana, vous pouvez voir l'art unique de la maison sur pilotis, ainsi que les collections de matériaux de valeur historique qui y sont exposées. L'entrée dans l'espace du palais est gratuite. Vous ne devez fournir qu'une petite somme d'argent pour les frais d'entretien et l'installation du guide pendant la visite. Le palais, qui fonctionne maintenant comme un musée, se compose de 4 salles, chacune présentant un type de collection différent de l'ensemble de la collection, comme par exemple la première pièce est une pièce qui servait à recevoir les invités royaux. Ici, vous découvrirez brièvement l'histoire et le développement du royaume d'Ismahayana. La deuxième salle, ou la salle du milieu du palais, servait de trône au roi et à sa reine. Maintenant, à cet endroit, vous pouvez voir divers documents photographiques des proches du roi. Outre ces collections royales, il existe également une collection de reliques du sultanat Ismahayana Landak, qui sont classées au patrimoine culturel et historique, entre autres la couronne du sultan Landak, le kris Sikanyut, une paire d'épées magiques, le lit du roi et de sa femme, un ensemble de gamelan et aussi un ancien couronne. Êtes-vous intéressé à voir toute la collection du patrimoine culturel du sultanat? Si oui, venez immédiatement au palais Ismahayana. Bon, chers amis, c'était la rubrique Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
sepenuh hatiku, dayaku telah aku kerahkan. Yakin dan percaya, walau ragaku bergetar hebat, ku tetap di sini.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Teman saya menelpon ». Teman saya menelpon. Mon ami m'appelle. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé « Teman saya menelpon ». Teman saya menelpon. Mon ami m'appelle. Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et un guide touristique de Likupang. Dev a dit au guide que son ami à Jakarta venait de l'appeler. Bonne écoute.
Teman saya menelepon. Dia ingin ke Likupang bulan depan.
Kalau ke Likupang, jangan lupa ke Pantai Pulisan.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Teman saya menelpon, teman saya menelpon. Mon ami m'appelle. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Teman saya, mon ami. Menelpon, menelpon, appeler. Teman saya menelpon, mon ami m'appelle. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu l'expression teman saya menelpon. Teman saya menelpon. Mon ami m'appelle. Dans ce discours, il y a le mot menelpon, menelpon, appeler. Le mot menelpon, menelpon, appeler est formé à partir du mot téléphone. Téléphone, c'est téléphone. Et le préfixe men, men. Le mot menelpon, menelpon, appeler, signifie menggunakan telepon, utiliser le téléphone. Un autre exemple. Alors maintenant, écoutons un autre exemple d'utilisation du préfixe meng. Meng, qui exprime le sens de utiliser. Utiliser. Menggunakan. Par exemple, Dev menggunting kertas. Dev menggunting kertas. Papier a découpé Dev. Nelayan menggergaji kayu untuk membuat perahu. Nelayan menggergaji kayu untuk membuat perahu. Nelayan menggergaji kayu untuk membuat perahu. Les pêcheurs sciaient du bois pour fabriquer des bateaux. Chers amis, le préfixe meng meng, suivi, dans nom, en forme d'outil, signifie généralement menggunakan, menggunakan, utiliser. Par exemple, le nom blender, blender, mélangeur, devient memblender, memblender, mélanger. Ce que signifie menggunakan blender, utiliser un mélangeur. Et le nom palu, palu, marteau, memalu, memalu, frapper, frapper, qui signifie frapper utilisant un marteau. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Teman saya menelepon. Dia ingin ke Likupang bulan depan. Kalau ke Likupang, jangan lupa ke Pantai Pulisan.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
kecilku bersama dirimu. Kenangan indah yang tak terlupakan saat kau masih ada. Tinggalkan dunia dan hidup yang fana, berlinang deras air mata ini. Setiap saat ku ingat dirimu.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Tanah Melayu Jambi, chantée par Putri Astri, Pebriana Wulandari, Puji Ratnasari, Ria Indah, Ratu Mas Atu Nabila, Hairul, Khalil, et Rahmadi Triyoga. La chanson dont le titre est Tanah Melayu Jambi a été composée par Alex AR et Andy Gomez. Comme son titre, cette chanson raconte de Melayu Jambi. Les paroles parlent de la région de Melayu Jambi qui borde Ujung Jabung à Kerinci. Jambi est décrit comme un pays prospère, beau, sûr et sage. Bon, chers auditeurs, voici Tanah Melayu Jambi de Putri Astri, Pebriana Wulandari, Puji Ratnasari, Ria Indah, Ratu Mas Atu Nabila, Hairul, Khalil, et Rahmadi Triyoga. Bon écoute!
Selamat
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.